Bonjour à vous tous. J'espère que votre semaine a été agréable. Ici, à Clermont, nous bénéficions d'une température très agréable. Malgré la chaleur, parfois, ça c'est vraiment, et il fait vraiment chaud ces jours-ci. Je me rappelle, avant-hier, la température était 100 degrés Fahrenheit. Alors que aujourd'hui, ce matin, ça c'est un peu mieux. Et bon, c'est agréable, le soleil qui brille. Et bon, ça c'est la joie, ça nous donne la joie de voir la nature. Chers frères et sœurs, là où vous êtes, en Martinique, Haïti, Guadeloupe, Guyane française, Saint-Martin, l'île Marquise, je vous souhaite tous un bon sabbat. Je me rappelle quand je suis venu dans l'église il y a 45 ans de cela, il y avait un livre écrit par Monsieur Herbert W. Armstrong qui s'intitule « L'incroyable potentialité humaine ». Et aussi, il y a une autre brochure que j'aimais lire beaucoup, c'était « Pourquoi êtes-vous né ?» Vous savez, c'était vraiment frappant pour moi, c'était vraiment et poignant quand j'ai commencé à lire ces livres, ces brochures, parce que ce sont des choses que je ne savais pas. Alors que M. Armstrong nous a montré pourquoi Dieu a créé le genre humain. Et ce sont des choses que on ne peut pas apprendre dans les universités humaines et quel que soit votre degré de connaissance, vous ne pouvez pas comprendre ces choses-là. Il y a deux semaines de cela, nous avions célébré la fête des pères. C'était un moment pour tout le monde d'honorer et de célébrer leur père. Et nous avons pris du temps pour renouveler notre amour envers notre père pour ceux qui ont un père encore vivant. Ça n'a pas été le cas pour moi, mais encore, même quand que mon papa n'est pas vivant, mais encore, j'ai beaucoup de souvenirs de mon père. Je me rappelle que quand j'étais jeune, mon papa et moi, nous avions une relation vraiment amicale, une relation que je dirais au-delà de père et fils. C'était comme deux amis, nous avions pris du temps ensemble et nous avions passé beaucoup de temps ensemble. Nous partageons les mêmes loisirs, les mêmes buts en ce qui a trait les loisirs et l'équipe de football, tout cela, et même la musique. Et je me rappelle très souvent quand je pense à mon papa, j'écoute encore certaines chansons qu'il aimait. Surtout le dimanche, je me rappelle les traditions. Le dimanche, on allait à la messe ensemble le matin. Et après la messe, il y a des chansons qu'on écoute. Et puis après cela, parfois, on va sur la plage. Et après la plage, peut-être le soir, on va voir un film ensemble. C'était vraiment des choses merveilleuses. Beaucoup de souvenirs. Je dois vous dire que pour nous qui sommes dans l'église, la plupart d'entre nous, nous avons cette opportunité et nous avons cette gratitude envers Dieu d'avoir des parents qui nous aident à comprendre certaines choses, des parents qui sont là pour nous. Mais malheureusement, pour beaucoup, ils n'ont pas cette opportunité d'avoir du temps avec leurs parents. Et nous vivons dans un monde maintenant, ce n'est pas la même chose. Les vraies valeurs ont disparu. Maintenant, il n'y a plus de cette affinité entre parents et enfants. Et surtout, maintenant, ces derniers jours, avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de jeunes qui préfèrent passer du temps avec leur smartphone ou bien leur ordinateur. Ils sont sur l'Internet, ils préfèrent et correspondre avec des amis et de très loin sur Facebook, Twitter, tout cela. Mais nous savons, chers frères et sœurs, que Dieu est en train de construire une famille. Dieu est en train de bâtir une famille. Vous et moi tous, nous avons un Père. Un Père qui est spirituel, un Père qui est éternel, qui n'a ni commencement ni de fin. Notre Papa est encore vivant, il sera toujours vivant, et nous pouvons aller vers lui à n'importe quel moment. Et Dieu nous a appelés dans son Église afin que nous puissions lui ressembler. Vous et moi, notre tâche à nous maintenant, pendant que nous sommes dans cette vie, nous devons développer les traits caractéristiques de notre Père en nous. Et Dieu a créé le mariage. Dans le livre de la Genèse, nous voyons que Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a créé l'homme et après cela, il a créé la femme. Il a créé une compagne pour lui, quelqu'un pour partager sa vie, quelqu'une qui peut vraiment l'aider à comprendre certaines choses. Et c'est quelque chose, chers frères et sœurs, que nous ne devons pas prendre à la légère d'avoir une compagne, d'avoir un compagne, d'avoir un époux, une épouse qui partage sa vie avec nous. Et c'est Dieu qui l'a créé ainsi, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, Dieu est en train d'étendre sa famille et vous et moi, le jour viendra où nous ferons partie de la famille de Dieu. Pour le moment actuel, la famille de Dieu est composée du Père, notre Père, et son Fils, Jésus-Christ, qui est notre frère aîné. Mais nous devons comprendre cela, et chers frères et sœurs, nous devons faire de notre mieux pour ressembler de mieux en mieux à notre Père céleste. Et comment le faire? Vous savez, chers frères et sœurs, que Dieu déteste le divorce. Dieu a créé le mariage pour un but bien déterminé. Et le mariage et la famille sont des choses très importantes aux yeux de Dieu. Et ils le sont encore pour ceux qui sont appelés à l'époque actuelle. Veuillez vous reporter à Malachie au chapitre 2. Malachie au chapitre 2, nous allons lire le verset 16. Malachie, ça vient juste avant Matthieu. Nous avons Zacharie, Matthieu. Nous avons Zacharie, Malachie. Malachie chapitre 2, verset 16. Et c'est Dieu qui parle ici dans ce verset. Il dit, car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Ici, il y a l'infidélité envers le mariage, il y a aussi l'infidélité envers Dieu. Quand on devient infidèle dans notre relation avec notre époux ou notre épouse, on devient infidèle dans notre relation avec Dieu. Parce que quand nous prenons l'engagement de nous marier, d'aimer quelqu'un pour le reste de notre vie, c'est pas envers cette personne, mais nous le prenons envers Dieu. Nous faisons une promesse à Dieu d'aimer cette personne, de nous engager à tout ce qui est positif dans la vie de cette personne. Dieu nous utilisera dans le monde de demain pour enseigner aux autres comment être de bons parents, comment élever et aimer les enfants, comment vivre selon le mode de vie de Dieu, et aussi comment construire un mariage heureux. Nous sommes formés, nous sommes appelés pour le faire dès maintenant dans nos relations conjugales et familiales actuelles. Chers frères et sœurs, nous devons faire de tout notre mieux pour réussir et de ne jamais abandonner dans ce que Dieu nous a demandé de faire dans notre poste, et nous devons aller vers l'avant et nous devons converger nos yeux sur Dieu notre Père et son Fils Jésus-Christ, notre famille spirituelle, et sans négliger nos frères et sœurs dans l'Église. Parce que la plupart du temps, on pense à Dieu, on pense à Dieu, on pense à Jésus-Christ, on parle de Dieu, on parle de Jésus-Christ, mais nous négligeons souvent nos frères et sœurs. Vous savez, tous nos frères et sœurs dans l'Église sont des gens qui sont appelés comme nous dans l'Église. Et ils ont tous les mêmes potentialités de devenir un jour des membres de la famille de Dieu. Bien que nous savons que tout le monde, à un moment, aura sa chance. Mais pour l'instant, Dieu appelle seulement un petit groupe, le petit troupeau, l'Église de Dieu. Et nous devons comprendre cela. Nous devons vraiment penser comment nous aimer les uns les autres, comme Dieu, lui, nous a aimés. Parce que nous sommes une famille. Dans le monde de demain, nous aurons un superviseur, quelqu'un qui sera au-dessus de nous. Dans cette grande entreprise, directement, nous serons supervisés directement par le Fils de Dieu. Jésus-Christ lui-même, il sera au-dessus de tous, il sera le roi des rois. Alors que nous serons des rois, nous serons des prêtres, mais lui, il sera notre roi. Il nous guidera, il nous aidera à remplir notre tâche dans le monde de demain. Mais nous devons savoir que le Christ était venu et il nous a laissé un grand exemple à suivre. Et il est notre instructeur ultime. C'est lui qui a créé le mariage et la famille. Parfois, quand on parle de la récitation de la Genèse, on pense que c'était Dieu le Père. Alors que, selon la Bible, le Christ, Jésus-Christ, parce qu'au début, comme vous pouvez le lire dans le livre de la Genèse, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Le mot Dieu est traduit par Elohim, pluriel. Faisons. C'est que le Dieu, notre Père et son Fils ont créé l'homme et selon leur ressemblance. Et c'est ce même Jésus-Christ qui a dit, il n'est pas bon pour que l'homme soit seul. Il accueille aussi la femme. Vous savez, Jésus-Christ et son Père sont un. Et dès le début, ils sont toujours ensemble. Et jusqu'à maintenant, et pour toute l'éternité, ils seront toujours ensemble. Et, chers frères et sœurs, ce que j'aimerais faire, j'aimerais vous révéler des faits, certains faits sur le caractère de Dieu, afin que vous puissiez lui faire confiance, l'honorer, lui comprendre, et comprendre à quel point qu'il est intelligent, comprendre que Dieu est notre véritable guérisseur, il est notre Père, parce que je me rappelle quand j'étais enfant, quand quelque chose me faisait mal, ou quand j'avais peut-être des frayeurs, je cherchais toujours ma mère ou mon père. Et nous devons comprendre cela. Quand mon père était à mes côtés, je me sentais fort. Et vous savez, et c'est la même chose pour Dieu. Dieu est notre guérisseur. Quand nous sommes malades, quand quelqu'un dans notre famille est malade, nous allons vers Dieu. Nous lui prions, nous lui demandons de nous guérir. Son nom est Yahweh Rofika, qui signifie guérisseur. Et si vous voulez comment appeler cela, c'est Y, majuscule Y, W, A, H. Et Rofika, majuscule R, majuscule O, F, E, E, C, A, qui signifie guérisseur. Dieu nous aime tellement, notre Père nous aime tellement qu'il a assigné des anges pour protéger chacun de nous. Et la Bible le dit, ce ne sont pas des choses imaginaires. C'est que Dieu, parfois, je me rappelle, est très proche de certains accidents et il y a des miracles qui se font, c'est des miracles qui se font chaque jour dans notre vie, sans même le réaliser. Mais Dieu a placé des anges pour nous protéger. Tout père qui aime ses enfants donnera sa vie si nécessaire et se préoccupe toujours de les protéger du mal. Veuillez vous reporter au Psaume 91. Psaume 91, verset 11. Et nous voyons que comment que la protection de Dieu est toute suffisante pour nous. Psaume 91, verset 11. Car il, ici il parle, ici on parle de Dieu, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Dieu a placé des anges autour de nous pour nous protéger. Et nous devons, c'est pas facile pour nous de comprendre ces choses, de les laisser ancrer, mais nous devons le faire. Nous devons placer notre confiance entièrement en Dieu. Quand nous nous réveillons le matin, nous devons aller vers lui, nous devons lui prier pour lui demander, Père Saint, je te demande, nous te demandons d'envoyer tes anges auprès de nous pour nous protéger. Nous devons remettre toute notre vie à Dieu, la vie de nos enfants, la vie de tout ce que nous aimons. Nous devons savoir que Dieu nous aime et Dieu ne va pas laisser quoi que ce soit nous faire du tort, ou qui que ce soit nous faire du tort. Dieu a des sentiments et il a sacrifié son Fils unique pour que nous ayons la possibilité de vivre. Sans le sacrifice de Jésus, vous et moi, nous n'aurons aucun espoir de vivre éternellement. Mais à cause du sacrifice de Jésus-Christ, vous et moi maintenant, nous héritons la vie éternelle. Mais il faut savoir, il faut remarquer ceci. Ça n'a pas été facile pour Dieu, le Père, de voir son Fils unique subir des violences physiques. Un Fils dont il était satisfait, un Fils obéissant, plein de miséricorde, de compassion et d'intérêt pour tout ce qu'il rencontrait. Veuillez vous reporter à Matthieu au chapitre 3, verset 17. Matthieu, chapitre 3, au chapitre 3, verset 17. Pour voir comment Dieu a parlé de son Fils. De Matthieu, chapitre 3, verset 17. Et voici une voix fit entendre des cieux ses paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu, le Père, qui parle de son fils ici dans Matthieu chapitre 3 verset 17. Chers frères et sœurs, Dieu était satisfait de son fils, qui était un fils qui n'avait jamais commis aucun taille, aucun type de péché, ni fait de mal à personne. C'était un fils qui était humble et qui avait l'habitude de donner sa vie pour tout ce qui en avait besoin, quelle que soit leur situation de la vie, leur race, qu'ils soient riches ou pauvres. Il faut voir comment le Christ a vécu sa vie. On lui blâmait d'avoir des amis et de comme des publicains. Et il avait des amis, et des pharisiens qui étaient ses amis. Il y avait des hommes riches, comme Nicodème qui était un homme riche, mais qui était un disciple du Christ, qui était son ami. Nous voyons dans le choix de ses apôtres, il y avait un médecin, Luc qui était un médecin, il y avait Matthieu qui était un homme de collecteur, de taxe collecteur. Il y avait des pêcheurs comme Pierre et son frère. Il y avait tout genre de personnes. Dieu, le Christ, n'avait pas choisi juste les gens qui étaient riches, les gens qui étaient convertis, on peut le dire, des gens qui étaient intelligents. You know? Non, le Christ a choisi tout le monde, riche, pauvre, intellectuel, et Dieu, le Père, aussi ne fait pas exception de personne. On peut voir ça en Actes au chapitre 10. Dans Actes au chapitre 10, verset 34. Ça, c'est là l'un des traits caractéristiques de Dieu. Dieu ne fait pas de discrimination, il ne fait pas d'acception de personne. Il aime tout le monde dans Actes chapitre 10, verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. Et vous et moi, chers frères et sœurs, nous devons développer ce même trait caractéristique. Nous devons aimer tout le monde sans avoir des idées de préjugés, des idées de discrimination envers qui que ce soit. Nous sommes tous dans l'Église parce que Dieu nous a appelés, Dieu nous a aimés et nous sommes tous des futurs enfants de Dieu. Et reportez-vous maintenant à Jacques au chapitre 2, verset 9. Dans Jacques, chapitre 2, verset 9, je lis. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Vous êtes condamné par la loi comme des transgresseurs. Vous ne pouvez être membre de la famille de Dieu. Être membre de l'Église de Dieu veut dire, chers frères et sœurs, nous devons nous débarrasser de tout esprit de favoritisme, tout esprit de préjugé, tout esprit de discrimination. Parce que ce sont des choses que le monde aime, ce sont des choses que Satan guide le monde dans cette voie-là. Et ici, il dit que, et un peu plus haut, il dit que, écoutez au verset 5 du même chapitre, chapitre 10, verset 5, l'apôtre Jacques dit ici, écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous avilissez le pauvre, n'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Au verset 8, si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Parce que c'est ce que Dieu veut que nous fassions. C'est sa façon d'agir. Dieu aime tout le monde. Il ne fait pas de distinction. Et l'apôtre Jacques ici dit au verset 10, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Si nous faisons du favoritisme, chers frères et sœurs, c'est que nous n'agissons pas comme notre Père. Nous ne cherchons pas à être semblables à notre Père. Parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Et ici, l'apôtre Jacques est vraiment clair dans ce qu'il dit. Il dit, quiconque observe toute la loi, ça veut dire qu'on peut faire tout, on peut payer nos dîmes, nous payons nos dîmes, c'est bien. Nous gardons toute la loi, les 10 commandements à la lettre, oui, c'est bien. Et nous observons toutes les fêtes de Dieu, les fêtes de l'Éternel, c'est bien. Mais si dans nos pensées, dans notre esprit, nous avons des préjugés, nous avons du favoritisme, nous faisons de la discrimination, qui est un péché. Maintenant, l'apôtre Jacques dit que ici, si nous observons toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, nous devenons coupables de tous. Et nous devons prendre soin à ces choses-là. Jésus-Christ, notre frère aîné, a suivi l'exemple de son Père. Il a toutes les belles caractéristiques de son Père. Comme je vous ai dit, Jésus-Christ avait des amis un peu partout. Jésus-Christ représente donc son Père à tous égards, à tel point que si vous établissez une relation et vous vous rapprochez de lui, vous établissez également une relation et vous vous rapprochez de son Père céleste, car ils ne font qu'un. Vous ne pouvez pas dire que bon, oh oui, Dieu est mon Père, alors que le Christ, Jésus-Christ lui-même, bon, je peux lui mettre de côté. Non. L'apôtre Paul a bien compris cela. Voilà pourquoi il a dit dans 1 Corinthiens au chapitre 11 au verset 1, imitez-moi. Suivez mes pas comme moi j'imite le Christ. Soyez mes imitateurs comme moi je le suis du Christ. Nous imitons le Christ. Et quand nous imitons le Christ, nous sommes sur les mêmes ondes d'onde de son Père. Nous faisons le travail de notre Père. Nous faisons notre mieux pour ressembler à notre Père. Reportons-nous à Jean au chapitre 14, verset 9. L'évangile de Jean, le Christ qui parle ici, dans Jean chapitre 14, verset 9, il parle de lui et de son Père parce que Philippe, l'un de ses apôtres, lui a demandé, ah bon, montre-nous le Père et cela nous suffira. Cela nous suffirait. Dans Jean chapitre 14, verset 9. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, au verset 8. Montre-nous le Père, et cela nous suffit. Au verset 9, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Frères et sœurs, quand vous et moi pratiquons la justice de Dieu, quand nous reflétons les vertus de Dieu, les caractéristiques de Dieu, si le monde ne nous aime pas, si le monde nous hait, c'est qu'il n'aime pas Dieu. Il n'aime pas Dieu, le monde, il n'aime pas Dieu, il est Dieu. Et voilà pourquoi vous et moi, nous ne faisons pas de soucis en ce qui a trait au monde. Nous ne faisons pas de soucis ce que les gens pensent. Nous ne faisons pas de soucis ce que nos parents dans le monde, nos amis, qui que ce soit, parce que nous avons Dieu avec nous. Nous faisons tous nos efforts pour l'aimer, pour l'adorer, pour l'honorer et pour développer une relation étroite avec lui. Et maintenant, quand les gens vous maltraitent, bon, Dieu va prendre soin d'eux. C'est clair. Et reportons-nous aussi au chapitre 10, verset 30 de Jean, l'évangile de Jean au chapitre 10, verset 30. Et le Christ encore qui parle, il dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » Il n'y a pas de différence entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Vous n'allez pas entendre Dieu le Père dire, « Ah bon, ok, vous devez faire ceci. » Et le Christ viendra, « Ah non. Vous n'avez pas besoin de faire cela. » Comme les gens prétendent. Les religieux, les chefs religieux de ce monde, vous disent que dans l'Ancien Testament, il y avait un Père. Il y avait Dieu le Père qui est vraiment rigide, sévère. Il nous a donné des lois qui sont vraiment des fardeaux. Alors que le Christ, lui, il est venu, vraiment doux. Et puis, il a dit, ah bon, ok, maintenant vous n'avez pas besoin d'observer les commandements de mon Père, parce que ça, c'est trop dur pour vous. J'ai précisé, ce sont là des fables que Satan, le diable, a inventées. Satan, le diable, a donné au monde afin qu'il soit déçu. Mais ici, le Dieu, le Père et son Fils sont un. Et lorsque nous marchons, nous imitons le Christ, nous marchons dans ses sentiers, nous sommes un avec le Père, nous sommes en communion avec son Père et lui. Maintenant, tournez-vous en Jean, le même livre, le livre de Jean, l'évangile de Jean au chapitre 1. Nous allons voir comment cela a débuté. Un verset que je sais que vous connaissez tous par cœur. Dans Jean au chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole. Dans certaines traductions, on dit le verbe. Au commencement était la parole, le verbe ou le logos. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au verset 2, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Au verset 4, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Maintenant, les scientifiques, tout le monde se bat pour savoir que l'origine de la vie. Mais ici, c'est clair. La Bible nous donne, nous n'avons pas besoin d'aller plus loin, nous n'avons pas besoin de nous tracasser pour savoir l'origine de la vie. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. C'est notre lumière qui nous aide dans toutes nos voies. C'est notre lumière intellectuelle qui nous aide à comprendre, à étudier, à apprendre, qui nous aide à réussir dans la vie, dans nos entreprises. Ça, c'est là, c'est la vie, la lumière du Christ. La question que j'ai pour vous, ce matin, sommes-nous unis avec Dieu? Sommes-nous unis? Sommes-nous vraiment un avec Dieu? Le Dieu qui nous aime, qui pourvoit à tous nos besoins quotidiens, qui nous protège et qui protège aussi nos enfants quand nous ne sommes pas là, qui nous protège et nous guérit physiquement, mentalement et spirituellement. Vous savez, chers amis, parfois nous devons nous poser ces questions. Parce que vous et moi, chacun de nous, nous sommes dans l'Église collectivement. Nous sommes partie de l'Église, nous faisons partie de l'Église, d'un corps que nous appelons le corps du Christ. Mais nous sommes des individus. Individuellement, chacun de nous est responsable pour sa connaissance spirituelle, pour sa croissance spirituelle. Et nous devons nous poser cette question parce que on peut voir, je peux voir les autres, mais je n'ai pas aucune liberté de les juger, de savoir ce qu'ils pensent, ce qu'ils vont dans leur pensée. Seul Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Dieu sonde les cœurs et les reins. Il sait ce qui se passe dans les pensées de chacun de nous. Maintenant, Dieu sait ce qui voyage dans mes pensées, comme il sait ce qui voyage dans vos pensées, la pensée de chacun de vous. Maintenant, quand la Bible nous dit dans Galates au chapitre 5, et c'est bon de nous reporter à Galates au chapitre 5 pour voir comment Dieu pense ce qui sont dans les pensées de Dieu. Dans Galates au chapitre 5, il dit que au verset 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Maintenant, la chair, c'est moi, c'est ma nature charnelle, et c'est tout ce que j'ai en moi. Et il dit ici, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Quand de mes pensées, je n'aime pas quelqu'un, parce que c'est moi, c'est ma nature charnelle, mais l'Esprit de Dieu m'a dit non, non. Vous devez faire l'opposé, parce que c'est pas la même chose. Quand je veux exercer de la discrimination ou préjugé contre quelqu'un, parce que j'ai des critères, des petites bêtes, mais l'Esprit de Dieu m'a dit ici, non, 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 non. Il ne faut pas faire comme ça. Parce qu'ils sont opposés afin que je ne fais pas ce que je veux ou ce que je voulais. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Voilà. Et ça, ce que les protestants, les religieux de ce monde ne comprennent pas. Quand nous marchons selon l'Esprit de Dieu, nous ne faisons pas nos affaires, nos propres affaires. Et même pendant le sabbat, je ne parle pas, mes paroles, mes conversations sont dirigées vers Dieu, vers ceux qui sont attirés à Dieu, à sa vie et son mode de vie. Maintenant, c'est différent. Je ne suis point sous la loi. Et il nous dit ici, au verset 19, or les œuvres de la chair sont évidentes. On ne peut pas les cacher. Non. Elles sont évidentes. Ce sont quoi? La débauche, l'impureté, c'est ce qu'on voit dans le monde. Maintenant, partout dans le monde, on voit l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie. Et la magie, c'est ce qu'on voit dans le monde, l'idolâtrie, on adore l'argent, on adore les gens, on adore leur rang, leur position, on adore les titres, on adore tout quoi. Non. Mais Dieu nous dit non. On doit adorer Dieu. On doit donner à Dieu le Père la première place dans notre vie. Et la magie, les rivalités. Ah! Ça, c'est ce qu'on voit dans le monde. Il y a beaucoup de rivalités, il y a beaucoup de concurrence. Et les gens qui veulent réussir à tout point, aux dépens des autres, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, verset 21, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et l'apôtre Paul ajoute, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Point barre. Si nous ne faisons pas de notre mieux pour nous débarrasser de ces fruits-là, pour nous débarrasser les œuvres de la chair, d'éliminer en nous les pensées charnelles, les pensées humaines, parce que c'est ainsi que le monde pense. On ne peut pas avoir un pied dans le monde et un autre pied dans l'Église. L'apôtre Paul est clair ici, il nous dit que ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et au verset 22, il nous donne ici comment Dieu pense. Les fruits de l'Esprit de Dieu, c'est l'amour. L'amour, c'est-à-dire le Christ nous a donné la bonne définition de cet amour, parce que cet amour est divin. Cet amour vient de Dieu. Jésus-Christ a dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. Ça, c'est la règle d'or. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, si vous voulez que les hommes soient gentils envers vous, si vous voulez que les autres vous témoignent de l'honneur, si vous voulez que les autres soient bons envers vous, soyez bons envers eux. Soyez bons, soyez gentils. Ça, c'est l'amour qui vient de Dieu, comme le Christ a donné sa vie pour nous, afin que nous ayons la vie éternelle. L'amour, la joie. Quand il y a la joie, ah, ça arrange tout. L'apôtre Paul nous a dit de nous réjouir toujours. C'est pas que tout va bien dans notre vie, c'est pas que et nous avons gagné la loterie. Non, il ne nous dit pas cela. Mais soyons joyeux toujours. Réjouissons son nom. Parce que nous avons un Père qui nous aime, un Père qui nous a promis un royaume, il nous a promis la vie éternelle. Un Père qui est tout puissant et qui nous aime, il est toujours là pour nous. La paix. L'apôtre Paul encore a dit, autant que cela dépend de nous, soyons en paix avec tout le monde. Recherchez la paix, poursuivez la paix. Oui, de l'Esprit de Dieu. Avec Dieu, il y a la paix. Avec Dieu, il n'y a pas de confusion. Avec Dieu, il n'y a pas de, comme on dit on voit dans le livre de la Genèse, Tohu and Bohu. Il n'y a pas cela. Tout est clair. Quand il y a la paix, on peut apprendre à servir Dieu. La confusion vient de l'adversaire, de Satan le diable. Mais il n'y a pas de confusion avec Dieu. Pour Dieu, tout est bien, tout est simple. La patience. Parfois, on a besoin de la patience divine, même quand les choses ne vont pas selon notre gré. Mais nous avons de la patience parce que nous savons que Dieu travaille pour nous. Dieu nous aime. Et nous attendons patiemment parce que la patience produit la foi. Et nous voyons après la patience, la bonté. Comme je vous ai dit, on est bon envers tout le monde. Dieu est bon. La bienveillance. Dieu est bienveillant. Il est bienveillant envers nous. La foi. Et si vous avez, si vous avez des doutes, allez vers Dieu et de demander lui d'augmenter votre foi. Et nous voyons nous lisons dans Hébreux 11 que celui qui adore Dieu doit avoir la foi. Nous ne pouvons pas lui plaire sans avoir la foi. Il a dit quelque part que mon juste vivra par la foi. Vous et moi, nous avons besoin de vivre par la foi, mais pas notre foi. La foi de Jésus-Christ. Il y a une différence entre notre foi, mais la foi de Jésus-Christ. Quand nous avons la foi de Jésus-Christ, nous exerçons la voie de Dieu. Nous exerçons comment le Christ a vécu sa vie, ça fait la différence. La douceur, quand vous êtes membre de l'Église, si vous êtes vraiment futur membre de la famille de Dieu, vous devez être doux. La douceur, il n'y a pas vous n'êtes pas rude, vous n'êtes pas vraiment agressif, il y a des gens dans le monde qui sont très agressifs et qui sont méchants et même la façon ils traitent les autres. Nous devons être doux. La maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ça, ce sont des choses, les fruits de l'Esprit de Dieu. Comment Dieu vit sa vie. Et, chers frères et sœurs, nous devons faire de notre mieux pour cultiver en nous les fruits de l'Esprit de Dieu. Chaque jour de notre vie, pas seulement pendant une période de temps, pas seulement pendant lors de la fête des tabernacles, ou peut-être une autre fête, mais c'est quelque chose que nous devons cultiver en nous chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde de notre vie. Vous savez, chers frères et sœurs, comme je vous ai dit, ces choses-là nous permettront de refléter l'image de notre Père céleste. Vous savez, au fil des ans, j'ai eu l'occasion de conseiller de nombreuses personnes qui avaient du mal à considérer Dieu comme le Père. Certains d'entre eux n'ont jamais connu le véritable amour de leur propre Père. Tout ce qui est certain, certaines personnes que j'ai conseillées ont reçu de leur père, c'est de l'amertume, de la haine et de l'abandon. Ils ont été témoins de violence, domestique violence à la maison, de toxicomanie, d'alcoolisme et abus sexuels, tout cela. Ces cicatrices ne guériront jamais correctement sans l'intervention de Dieu. Quoi que vous pouvez imaginer, vous pouvez vous rappeler du passé. Chers frères et sœurs, vous avez besoin de Dieu. Vous et moi, nous avons besoin de Dieu dans notre vie pour corriger les choses. Et j'ai conseillé des gens qui ont élevé la voix en disant, je ne peux pas pardonner mon père pour ce qu'il m'a fait. Et ma réponse a été, ne le fais pas pour lui, mais pardonne-lui pour toi-même afin de commencer le processus de guérison. Comme l'apôtre Paul l'a dit, et il a dit, il a oublié le passé. Ce qu'il a fait, il a oublié le passé. Il a mis tout en arrière. Et maintenant, il se converge vers l'avenir. Notre avenir est merveilleux. À chaque jour, chaque matin, quand je me réveille, je dis à moi-même, l'avenir est merveilleux. Je ne regarde pas en arrière, je ne regarde pas... Parfois on a des souvenirs du passé, mais notre espoir c'est vers l'avenir lorsque le Christ reviendra pour établir son royaume. Alors que, à ce moment-là, vous et moi, nous aurons une grande opportunité d'avoir un corps spirituel, un corps puissant. Nous aurons toute puissance pour faire des choses extraordinaires, des choses qu'on ne peut pas faire maintenant. Chers frères et sœurs, ça c'est éblouissant. Ça nous donne vraiment la tête lourde. Ça nous met ça fait la tête lourde. La question est pour nous, chers frères et sœurs, serons-nous qualifiés pour travailler sous la direction de Jésus-Christ? Parce qu'il a demandé à son Père de pardonner à l'humanité pour l'avoir blessé de toutes les manières. Nous devons apprendre à pardonner aux autres. Nous devons apprendre à laisser aller, laisser couler. Comme on dit, laisser couler, laisser crever. Maintenant, la question que je viens de vous poser, et je répète encore, serez-vous prêt à travailler sous Jésus-Christ en enseignant aux gens le pouvoir de guérison du pardon? C'est pourquoi il est si important que nous construisions notre caractère dans ce domaine dès maintenant. On ne peut pas attendre, on n'a pas le temps. Notre Père Céleste est un expert dans ce domaine. Le Christ nous a dit, dans la prière modèle, de demander à Dieu de nous pardonner comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et si nous n'apprenons pas à pardonner aux autres qui nous ont offensés, Dieu ne va pas nous pardonner non plus. C'est clair, c'est évident. Et, chers frères et sœurs, c'est humainement l'un des domaines les plus difficiles à surmonter. Je sais que quand quelqu'un nous fait du tort, la première chose, c'est de rétalier. La première chose, quand quelqu'un nous dit quelque chose et que nous n'aimons pas, c'est de donner à cette personne la monnaie de sa pièce. C'est en retorquant. Mais Dieu nous a donné une autre façon. Dieu nous a donné de faire l'opposé. Reportons-nous à Luc au chapitre 23, verset 34. Dans Luc chapitre 23, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Je ne sais pas si cela ne vous a jamais arrivé à quelqu'un d'entre vous. Quelqu'un vous a fait du tort et vous réfléchissez, vous prenez du temps. Et maintenant, c'est là, lorsqu'on a le Saint-Esprit de Dieu en soi, on a la patience, on a la maîtrise de soi. Maintenant, on a du temps. Pour réfléchir. On pense à ça. Bon, OK. Mais, OK, ça m'a fait du tort. Oui, ça m'a fait mal. Mais cette personne-là ne sait pas ce qu'il fait. J'ai en moi quelque chose qu'il n'a pas. Il n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. Voilà pourquoi il a agi de telle sorte. Voilà pourquoi il a dit ce qu'il a dit. Et puis bon, il faut le pardonner. C'est pas facile, humainement parlant, non, c'est pas facile, je sais. Mais ici, le Christ a dit, lui, le Christ a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous savez, nous avons cette tendance, et surtout dans l'Église, de juger ceux du dehors, et nous pensons, oui, mais non, le monde est pourri. Notre monde est vraiment un monde, vous savez, un monde qui a beaucoup de laideur, beaucoup de saleté. Mais nous savons que c'est Dieu qui va intervenir pour nettoyer les saletés du monde. Ce n'est pas vous, ce n'est pas moi en ce moment-là. Notre temps viendra lorsque le Christ reviendra, mais maintenant on ne peut rien faire. Tout ce qu'on voit sur les chaînes de télévision, tout ce qu'on entend de la radio, oui, on peut se plaindre, on peut se lamenter, mais on ne peut rien faire. Ce n'est pas à nous maintenant de décider. Il y a des gens qui pensent que ils peuvent dire des choses, ils peuvent prendre parti, et maintenant les partis politiques, tout cela, ça ne peut rien faire. Parce que nous avons un esprit extrêmement puissant qui déteste la voix de Dieu et aussi qui nous déteste. Et Satan va faire de tout son mieux. La Bible nous dit que avant le retour de Dieu, Satan va utiliser certaines personnes. Il va utiliser des chefs religieux et des chefs politiques. Et maintenant, Satan, selon la Bible, il est le Dieu de ce monde. Et nous voyons tout ce qui se passe. Et surtout, hier soir, j'ai regardé une étude biblique. C'était comment Satan utilise le sexe, la pornographie, maintenant pour attirer les jeunes. Et maintenant, il y a toutes sortes de perversions dans le monde et pas même aujourd'hui, quand on regarde la télé partout, il y a des parades et sur ce qu'on appelle la fierté de parade et les homosexuels. Maintenant, oh, c'est vraiment, c'est dégueulasse. C'est vraiment dur, même de regarder la télé. Mais nous savons que Dieu interviendra. Parce que maintenant, le monde où nous vivons, c'est le monde de Satan. Satan est en train d'influencer les gens. Maintenant, même les petits-enfants, à l'école, on veut les enseigner comment se changer de sexe, de genre, tout cela. Comment il faut utiliser des hormones. Et si vous êtes une fille, pour devenir un garçon. Si vous êtes un garçon, pour devenir une fille. Ça, c'est vraiment de l'abomination. C'est de l'abomination. Mais reportons-nous à 1 Chronique, verset 1, pour voir comment Satan a utilisé David. Dans 1 Chronique, au chapitre 21, verset 1, Satan se leva contre Israël, la nation d'Israël, et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Ce n'était pas l'ordre de Dieu, ce n'était pas l'affaire de Dieu, mais Satan se leva contre Israël. Il a utilisé David, le roi, un homme selon le cœur de Dieu. Voilà comment Satan, lui, il est puissant. Parfois, on ne pense pas à la puissance de Satan, mais Satan est puissant. Satan utilise les chefs de ce monde, les politiciens de ce monde pour faire des choses. Il utilise la télé, il utilise les chaînes de télévision. Et nous portons-nous à Job, au chapitre 1, le livre de Job. Vous savez, Job, ça vient juste avant les psaumes. Job, au chapitre 1. Et vous et moi, Satan a ses yeux sur nous. Ne pensez pas que Satan ne vous voit pas. Oui, Satan nous voit. Et il fait de son mieux pour nous attaquer jour et nuit. Et dans Job au chapitre 1, verset 6, le fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Au verset 7, l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. Ça, c'est son travail. C'est son travail. Au verset 8, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Verset 9, et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. » Verset 11, « Mais étends ta main à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Ah. Et c'est Satan, c'est ainsi que Satan travaille, et on voit la même chose au verset 2, au chapitre 2, verset 1. Job chapitre 2, verset 1. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi du milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Au verset 2, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Au verset 3, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Et au verset 3, et c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se donnant du mal, il demeure ferme dans toute son intégrité, et tu m'excites à le perdre sans motif. Et au verset 4, Satan répondit à l'Éternel, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Au verset 6, l'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Et vous savez le reste de l'histoire. Non, vous savez le reste de l'histoire. Au verset 7 du même chapitre, et Satan se retira devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Voilà. Parfois dans la vie, chers frères et sœurs, il y a des situations, et je ne dis pas que toute situation est causée par Satan, parce que parfois nous causons nous-mêmes nos problèmes. Mais ici, nous pouvons voir que Satan, comme la Bible dit dans l'Apocalypse, il est l'accusateur des frères. Et parfois, on fait face à des difficultés, on fait face à des persécutions. Dieu a permis à Satan de nous attaquer. Pourquoi? Parce que notre foi doit être éprouvée. Et vous savez le reste de l'histoire de Job, comment il a été éprouvé. Et à la fin, il a dit, Dieu, j'ai entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Ça, c'est vraiment, ça fait la différence. Après avoir franchi, après avoir passé des épreuves, on peut dire que maintenant, Dieu, je sais que tu es mon Dieu. Je t'embrasse. Voilà. Et c'est ce que Dieu veut de chacun de nous. Reportons-nous à 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. 1 Pierre, chapitre 1. Chapitre 5, désolé. Dans 1 Pierre, au chapitre 5, verset 8. Soyez sobres, veuillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est Satan, le diable. Il vous regarde. Il me regarde. Il rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Mais, chers frères et sœurs, nous avons une réponse. Nous avons une solution. La solution se trouve dans Jacques, au chapitre 4, verset 7. Si vous tournez les pages de votre Bible à Jacques, en arrière à Jacques, au chapitre 4, verset 7 et 8, il dit ici, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. et il fuira loin de vous. Verset 8. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Voilà ce que nous devons faire, vous et moi, chers frères et sœurs. Chaque jour de notre vie, nous devons nous rapprocher de Dieu. Nous devons faire de notre mieux pour que le Dieu créateur, celui qui a tout créé, soit vraiment notre Père. Nous établissons une relation étroite avec lui. Nous devons faire de tout notre mieux, chers frères et sœurs, pour aller vers l'avant. Et c'est ce que je vous conseillerai aujourd'hui. N'attendez pas demain. Ne pensez pas que, ah bon, maintenant, j'ai le temps. Non, nous n'avons pas le temps. Le temps est maintenant. Le temps est aujourd'hui même. Nous devons oublier le passé et regarder, viser l'avenir. Notre futur, notre avenir est brillant et glorieux. Mais nous devons faire notre part. Reportons-nous à Hébreux au chapitre 6. Et nous allons lire les versets 1 parce que vous et moi, chers frères et sœurs, nous avons notre opportunité parce que nous avions été appelés par Dieu. Nous avions goûté la gloire à venir, la gloire des choses à venir. Et nous ne pouvons pas retourner en arrière. Dans Hébreux au chapitre 6 au verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Au verset 2, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Et au verset 4, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Chers frères et sœurs, vous et moi, nous avons notre chance. Nous avons notre opportunité. Reportons-nous maintenant à Galates au chapitre 6. Galates au chapitre 6 et nous allons lire les versets 7 et 8. Galates, cela vient juste avant Éphésiens. Galates au chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Au verset 8, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Chers frères et sœurs, nous devons savoir que nous avons été appelés par Dieu pour réaliser notre potentiel. Les gens de ce monde, notre société est actuellement aveuglée et influencée par Satan le diable. C'est le monde de Satan, comme nous l'avions vu. Mais les gens du monde, de ce monde, seront jugés plus tard. Mais nous sommes en jugement. Même, c'est ce que la Bible nous a dit. Nous sommes en train d'être jugés. Et nous n'aurons pas une autre chance. Alors, chers frères et sœurs, occupons-nous les affaires de notre Père. Cherchons à lui ressembler dans tout ce que nous faisons. Marchons sur les traces, sur les sentiers de Jésus-Christ, son Fils. Développons notre caractère comme lui. Il a vécu sur la terre. Il nous a donné, il nous a laissé des exemples vraiment marquants afin qu'un jour nous puissions être avec lui, partager son royaume et rééduquer le monde, changer le cours, changer la course de ce monde, la course de cette société, et de devenir semblable à lui. Alors, à ce moment-là, nous serons des héritiers avec lui de tout ce qu'il possède. Dieu est notre Père. Dieu attend que vous et moi soyons ses fils, non seulement dans le royaume à venir, mais pour toute l'éternité.